Lizzie présente Le jardin secret de Linda Chapman, lu par Clara Suarez. D'après le scénario écrit par Jack Thorne et d'après le roman original de Frances Hodgson Burnett. Chapitre 1. Des bruits dans la nuit. Mary Lennox n'arrivait pas à trouver le sommeil. Le gros ventilateur qui brassait l'air au-dessus d'elle ne diminuait en rien la chaleur accablante des Indes. Dehors, le concert nocturne des insectes était étouffé par les voix des serviteurs.
« Ils sont bien bruyants ce soir !»
songeait Mary.
« Pourquoi papa ne les fait-il pas taire ?»
Elle se rassit sur son lit, coinça derrière ses oreilles des cheveux qui la gênaient, et prit sa poupée de chiffon.
« Jemima, tu ne dors pas ?»
chuchota-t-elle. Pour toute réponse, Jemima se contenta de la regarder. Mary aimait se persuader que Jemima comprenait ce qu'elle lui disait, car elle se sentait moins seule quand elle pouvait lui parler, lui raconter des histoires. Elle s'ennuyait moins. Mary était fille unique, et les domestiques, à l'exception de son aïa, sa nurse indienne, gardaient leur distance avec elle. L'enfant n'avait pas le droit de jouer dehors, car le soleil était trop ardent. Son père était trop accaparé par son travail pour passer du temps avec elle. Du moins, il n'en passait pas autant qu'elle l'aurait souhaité. Quant à sa mère, Mary se mordit la lèvre. Elle savait que sa mère ne l'aimait pas. Il lui arrivait même de penser qu'elle la détestait.
« Eh bien, moi aussi, je la déteste !»
se dit la petite fille renfrognée. Un cri retentit quelque part dans la villa, suivi par un fracas et un claquement de porte. Le ventre noué par la peur, Mary se tourna vers la porte de sa chambre. Que se passait-il? Elle avait surpris des conversations de son père qui évoquaient des heurts dans tout le pays. Mary n'y comprenait pas grand-chose, mais il lui semblait que le peuple indien ne voyait plus d'un bon œil la présence des Anglais sur leur territoire et réclamait qu'ils s'en aillent. Le père de Mary et ses amis avaient parlé d'échauffourées dans les rues. Mais il devait sûrement s'agir de rues très lointaines, dans des villes encore plus lointaines. Le personnel indien de la famille Lennox était si dévoué que Mary ne pouvait imaginer qu'il prenne part à des échauffourées. Non, elle était en sécurité dans cette villa. Elle n'avait absolument rien à craindre. S'efforçant de ne pas entendre les bruits et les cris qui lui parvenaient de l'extérieur de sa chambre, Mary se mit à caresser les cheveux de laine de Jemima.
« As-tu peur, Jemima ?»
chuchota-t-elle.
« Rassure-toi, ce ne sont que des affaires de grandes personnes. Cela te ferait-il plaisir que je te raconte une histoire pour te changer les idées ?»
Mary alluma une lanterne, puis descendit de son lit et conduisit Jemima au petit tas de coussins et de plaids qu'elle avait disposés au milieu de sa chambre. Elle entreprit alors de lui raconter une de ses histoires préférées, en l'illustrant par des ombres chinoises. C'était une histoire qu'elle tenait de son aïa. Elle parlait d'un garçon, Rama, et d'une fille Sita qui était amoureux, et du démon qui un jour enleva Sita. Les histoires de la vieille indienne étaient toujours peuplées de dieux et de démons, gorgées de magie et de frissons. Mary n'avait pas tout à fait terminé son récit, que les bruits extérieurs s'étaient estompés. Et qu'elle-même avait les paupières lourdes.
Rama s'apprêtait à rattraper Sita, et le démon, quand ce dernier l'emprisonna dans une cage de flammes,
prononça Mary en bâillant.
Par chance, Agni, le dieu du feu, observait la scène, et il écarta les flammes pour en libérer Rama et le transporter dans les nuages.
Après cela, tous deux partirent ensemble à la recherche du grand amour de Rama.
Mary souffla la lanterne, s'allongea sur les coussins, Jemima entre ses bras. Ses paupières papillotèrent et très vite, elle s'endormit. un gazon humide, des parterres de fleurs roses, lilas et bleues, des arbres aux branches ployant sous le poids des fleurs. Marie courait dans une allée flanquée de statues. Un adulte lui tenait la main. Elle riait, s'efforçait de ne pas trébucher et éprouvait un bonheur aussi fabuleux qu'entier. Marie sortit lentement du sommeil. L'espace d'un instant, elle voulut se raccrocher à ce rêve familier. Cependant, il s'envola, comme toujours. Ce jardin de rêve ne ressemblait à aucun de ceux qu'elle connaissait. Or, il lui semblait bien réel lorsqu'elle s'y trouvait. Et elle s'y sentait chaque fois au comble du bonheur. Marie soupira, se frotta les yeux. La première chose qu'elle remarqua furent les volets ouverts et la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre. Son ventre gargouilla. Où était donc son Aya? Pourquoi ne lui avait-elle pas apporté son petit déjeuner? Tiraillée par la faim et l'agacement, Marie appela « Aya !» très fort. À sa grande surprise, la porte ne s'ouvrit pas sur le visage plein de bonté de la vieille dame. En colère à présent, Marie haussa la voix.
« Aya ! Je t'appelle ! Il est tard et je ne suis même pas habillée ! Aya !»
cria-t-elle d'une voix stridente. Marie patienta, mais personne ne vint.
« Ça, par exemple !»
Le plus grand silence régnait dans la maison. C'était étrange. D'ordinaire, Marie entendait les domestiques s'affairer. Un malaise l'envahit au souvenir des drôles de bruits perçus pendant la nuit.
« Tu penses qu'on devrait aller trouver quelqu'un, Jemima ?»
demanda-t-elle d'une voix qu'elle voulut forte et courageuse, mais qui chevrota quand même.
« À mon avis, c'est une très bonne idée. Ne crains rien, je veille sur toi. Nous allons trouver papa et il fera venir Aya. »
Marie ouvrit la porte de sa chambre et s'arrêta sur le seuil. Dans le couloir, les tableaux avaient été décrochés, dépouillés de leurs cadres dorés. Le cœur palpitant, elle partit fouiller la villa. Le même spectacle de désolation l'attendait dans chaque pièce. Rideaux arrachés, bibelots fracassés, meubles presque tous volatilisés. Dans la cuisine, enfin, tous les placards étaient ouverts et les étagères vides. Les objets de valeur avaient disparu sans exception. Comble du désespoir, il n'y avait pas âme qui vive dans la maison.
« Papa ? Aya ?»
prononça Marie, de plus en plus angoissée. Elle ouvrit les portes de la véranda. Sous le soleil éclatant, le jardin était aussi désert que la maison. Marie serra bien fort Jemima.
« Où sont-ils tous passés ?»
chuchota-t-elle. Chapitre 2. Un long voyage. Assise sur la banquette en bois d'un immense navire qui avançait lentement sur l'océan, Marie quittait les Indes pour l'Angleterre. Le dos bien droit, Jemima dans ses bras, elle contemplait le ciel en silence. Un groupe d'enfants turbulents jouait sur le pont, à quelques pas d'elle. Mais Marie ne se joignit pas à eux. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis le matin où elle avait découvert sa maison dévastée. Il lui semblait que c'était dans une autre vie. Personne ne s'était présenté à la villa avant 2 jours, quand 2 officiers anglais étaient venus frapper à la porte. Stupéfait de la trouver là, sale, assoiffée et affamée, il l'avait conduite à l'hôpital. Marie avait interrogé ses hommes au sujet de ses parents, mais ils lui avaient répondu d'être sage et de ne pas s'alarmer. À l'hôpital, une infirmière lui avait donné à manger et à boire, l'avait aidée à se laver et à enfiler des habits propres. Puis Marie avait été examinée par un docteur. Pas plus ce dernier que l'infirmière ne lui avait répondu à leur tour quand elle s'était une nouvelle fois inquiétée de ses parents. Dans la salle d'attente où elle s'était demandé quand papa allait venir la chercher et ce qu'il dirait lorsqu'il découvrirait que tous les domestiques avaient disparu, elle avait surpris un échange entre les 2 officiers dans une pièce voisine.
« Un bazar affreux !» avait déclaré le premier d'une voix grave. « Pauvre enfant ! Si seulement nous avions évacué cette famille avant les troubles !» L'épidémie de choléra n'aurait pas pu tomber à un plus mauvais moment pour eux.
Marie avait tendu l'oreille. Elle savait que le choléra faisait beaucoup de victimes. Mais quel était le rapport avec sa famille ?